Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Résumé efficace, même s'il est lapidaire, de l'une des plus belles pièces de Racine, la phrase, implacablement déroulée, finit là où finissent souvent les tragédies, dans la mort. On dit de Racine et de Molière et de Corneille, tous trois auteurs du XVIIe, qu'ils ont érigé l'architecture de la langue française, lui ont donné son cadre et son ossature. On dit aussi que le théâtre de texte, dont nous sommes toujours très friands, nous vient d'eux et que la tradition du jeu à la française est marquée au fer rouge par le souvenir de l'alexandrin, de sa profération précise. Exact, rythmé. On dit enfin que le vers racinien est plus qu'une écriture, qu'il est le moyen pour le personnage, l'acteur et aussi le public de creuser à la recherche de la vérité, c'est-à-dire à la recherche de l'indicible et de l'inconscient. Racine aurait-il, avant Freud, inventé la psychanalyse? Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre racinien d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art si tragique qu'on en a des frissons. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Pourquoi veux-tu cruel irriter mes ennuis? Je crains de me connaître en l'état où je suis. De tout ce que tu vois, tâche de ne rien croire. Crois que je n'aime plus, vante-moi ma victoire. Crois que dans son dépit, mon cœur est endurci. Hélas, et s'il se peut, fais-le-moi croire aussi. Tu veux que je le fuis, eh bien rien ne m'arrête.
Jesus, been 20 years.
Allons, n'en vions plus si
Candy. You were so fine.
Bonjour Anne Delbé.
Bonjour.
Alors peut-être que nous allons être avec vous et à cause de vous un peu obsessionnels dans cette saison au théâtre consacrée aujourd'hui à Racine. Peut-être que nous allons ouvrir les pages d'Andromaque pour ne plus en sortir. Andromaque, cette pièce que vous avez mise en scène plusieurs fois, dont vous avez joué le rôle-titre et que vous reprenez dans le mois qui vient à Versailles dans le cadre du mois Molière. Savez-vous pourquoi, Anne Delbé, vous avez développé vis-à-vis de Racine et plus particulièrement de cette tragédie Andromaque ce qu'on peut qualifier d'addiction?
Pourquoi, comme dirait Racine, est-ce qu'on sait pourquoi on tombe amoureux fou? En tout cas, ça c'est vrai, il m'a frappé en plein cœur un jour et je n'en suis plus jamais sortie. Et j'ai monté plusieurs fois les pièces et Andromaque particulièrement est une des pièces qui est pour moi la plus contemporaine. Et comme je dis souvent, la tragédie racinienne jette une lumière sur les camps de notre bestialité. Elle nous élève à la prise de conscience, comme ce vers magnifique d'Andromaque, « Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours ?» Vous avez résumé l'anecdote d'Andromaque, mais ce qui me fascine, si on parle déjà de l'histoire, c'est la Syrie aujourd'hui. Comment un peuple qui a été détruit, qui est Troie, et comme le dit Pyrrhus, je songe qu'elle était autrefois cette ville si superbe en rempart. Comment on détruit toute une civilisation? Comment aujourd'hui on détruit toutes les civilisations? Compris, je pense qu'un jour on détruira complètement la civilisation racinienne. Et comment les barbares arrivent? Et cette pièce est absolument splendide parce que de l'autre côté il y a les Grecs, Pyrrhus, qui non seulement aime Andromaque, qui est la captive, qui est l'ennemi, mais qui en plus, comme il va essayer de lui dire « sauvez votre fils, mais sauvez-nous tous ». Et pour moi, la tragédie est la seule chose aujourd'hui qui peut peut-être tous nous sauver.
Voilà. Est-ce que rencontrant Racine, vous avez eu le sentiment, Anne Delbé, de rencontrer la langue que vous deviez parler et que c'était votre langue, que cette langue de Racine, cet alexandrin, ce vers racinien, au fond, vous permet de tenir debout?
Absolument. Mais je l'ai pas su tout de suite. Parce que j'ai monté à 12 ans et demi Britannicus, la première pièce que j'ai montée au lycée. On ne sait pas pourquoi. Après, j'ai commencé à mettre en scène Racine en 83 parce que Vitesse m'a demandé de le remplacer à Avignon.
Antoine Vitesse.
Mais aussi parce que je venais d'écrire Camille Claudel et je me disais, comme une danseuse, il faut que j'aille à la barre. Et pour moi, la barre, c'était Jean Racine. Mais je ne savais pas qu'il allait comme ça m'habiter. Et il m'habite de plus en plus, et comme vous le dites, cette écriture qui n'est pas du tout celle de Molière, ni celle de Corneille, c'est pour ça que je redis toujours, on dit toujours Corneille, Molière, Racine, il faut se dire que quand le jeune Racine arrive, Corneille a presque 40 ans de plus que lui, il appartient plutôt à la fin du XVIe siècle, et Molière a presque 20 ans de plus que lui, même si je considère que Molière est le père spirituel de Racine. Ça, faut jamais l'oublier.
Ah oui,
oui, absolument.
Pour vous, c'est Molière le père spirituel de Racine.
Absolument.
Tiens.
Le père de théâtre, le père de père du théâtre. C'est-à-dire, c'est quand même Molière qui l'a admis auprès de lui, admis ce jeune homme de 20 ans, dont la pièce n'avait pas été prise au théâtre du Marais, et qui tout de suite a remarqué, à mon avis, chez lui, les extraordinaires possibilités qu'il avait d'être un poète tragique.
On va écouter, ou on va essayer en tout cas, Anne Delbey, d'écouter plusieurs archives dans cette émission. Et je voudrais qu'on ouvre avec la parole d'un des plus éminents commentateurs de Racine, c'est bien évidemment Roland Barthes.
Racine est une sorte d'auteur que maintenant nous pouvons consommer d'une façon en quelque sorte anthologique et sélective. Racine, cela peut se jouer un peu comme de la musique de chambre. Eh bien, je dirais que ça peut se jouer aussi un peu comme un oratorio, et au fond, on admettrait bien d'entendre seulement la première partie du Messie de Handel. Eh bien, de la même façon, on pourrait très bien admettre d'entendre uniquement deux actes d'Andromaque, n'est-ce pas ? Au fond, l'histoire d'Andromaque, il n'y a aucun suspense. On sait comment ça finit, tout le monde sait comment ça finit. Par conséquent, l'intérêt et l'investissement dans la pièce portent évidemment sur autre chose que sur l'issue de l'histoire. Par conséquent, moi j'admets très très bien qu'on représente des fragments de Racine.
Et vous, Anne Delbey, vous admettez qu'on puisse ne représenter que des fragments de Racine, comme le dit Roland Barthes, ou vous criez au sacrilège quand vous entendez ça ?
Et je m'opposerai sur un point, mais j'irai plus loin sur un autre.
Ah.
C'est-à-dire que moi, je pense que, et je le vis, un seul vers de Racine peut habiter une vie, et de plus en plus. C'est-à-dire que plus je travaille sur Racine, plus c'est chaque vers, l'un après l'autre, qui est tout un théâtre, qui est toute une vie. C'est pas une scène, c'est là où Roland Barthes a raison, on n'est pas dans l'action, on est dans un petit peu, je dirais un petit peu comme, c'est drôle, comme on pourrait dire, les entre chaque bâton on peut mourir, le zen, là entre chaque alexandrin on peut mourir, c'est toute une vie. Mmh. Et chaque alexandrin fait avancer dans, non pas, et vous avez parlé de psychanalyse tout à l'heure, et c'est ça, non pas dans une action politique, mais dans un désarroi et la grande interrogation que nous avons tous, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien, donc j'irai plus loin que Barthes en disant, mais un seul vers suffit.
Alors c'est, vous, voilà. Ce serait lequel? Vers Anne Delbey.
Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. On n'a rien à dire après, quoi.
On va continuer quand même,
voilà,
à parler de Racine et
d'Andromaque.
Et
là où je m'opposerais à lui, je n'aime pas cette habitude qu'on a de dire, vous savez, faut pas jouer Racine. Racine, c'est une musique de chambre. Non. Racine, c'est du théâtre. C'est fait, et heureusement. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu les acteurs, peut-être qu'on ne parlerait plus de Racine. Et pour moi, il y a des moments où on doit hurler Racine, et il y a des moments où on doit chuchoter Racine, parce que c'est du très grand théâtre. C'est comme si vous disiez, non mais l'opéra, un seul morceau suffit. Non, il y a des moments que ça éclate et il y a des moments qui sont d'une douceur infinie. De même que l'écriture d'Andromaque n'est pas celle de Bérénice. C'est-à-dire que chaque vers, il y a des vers qui sont foudroyants, il y a des vers qui sont délicieux, vous voyez. Mais je n'aime pas cette idée, vous savez, on ne peut pas jouer Racine. Ça, ça m'énerve, voilà.
Est-ce que c'est difficile pour vous de ne pas le jouer, en l'occurrence, cet été, là, au Festival Molière de Versailles, de ne pas être sur le plateau, de ne pas assumer ce rôle que vous avez pendant si longtemps porté sur les scènes, Anne Delbé?
Non, pour deux raisons. C'est que j'ai, dans ma vie, j'ai un cadeau infini. C'est que je ne savais pas que j'avais accouché d'une tragédienne. Donc c'est ma fille qui reprend le rôle. Le cadeau aussi, c'est que de plus en plus de jeunes comédiens de 20 ans veulent absolument jouer, et jouer Racine, être déchirés par Racine. Et d'autre part, je ne pourrais pas le rejouer parce que ça me fait pleurer. Andromaque, je ne peux plus le jouer. Parce que cette femme prise en otage, et Dieu sait que c'est aujourd'hui, qui essaye désespérément de sauver son enfant, qu'on va égorger. Je ne peux plus. Il y a des vers, par exemple, des vers qui sont d'une simplicité. Parle-lui tous les jours des vertus de son père. Elle va mourir, elle sait qu'elle va mourir par la barbarie. Elle ne meurt pas parce que Racine l'a sauvée, finalement. Et ce vers, et quelquefois aussi, parle-lui de sa mère. Moi, c'est des vers qui m'arrachent l'âme. Or, pour jouer, il faut que ce soit le public qui soit arraché, mais pas... C'est un rôle que je ne peux plus jouer, j'en mourrai, alors c'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine, voilà. Effectivement, Anne Delbé. Mais mettez-le en scène, continuez à le mettre en scène et à le transmettre, effectivement, voilà. Parce que, au fond, j'ai l'impression que cette idée, cette notion et même cette nécessité de la transmission de la tragédie, elle est chez vous complètement fondamentale aujourd'hui. Elle est devenue fondamentale. Il faut transmettre la tragédie, mais comme on transmettrait quelque chose qui est peut-être en voie de disparition, et il faut que la Luciole survive.
À mon avis, elle est essentielle et urgente. Et je suis extrêmement... Puisque quand même, je fais des stages au studio d'Anière. Et je vois que, contrairement à il y a 10 ans, la jeunesse qui arrive de comédiens, ils ont envie...
Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie? Vous disiez, ils ont tous envie à 20 ans de jouer Racine. Pourquoi ce
avant, ils n'avaient pas... C'est tout d'un coup à cause peut-être des attentats, à cause de l'urgence du monde, à cause de la tragédie qu'ils côtoient. Par exemple, l'autre jour, j'étais très frappée, j'étais dans un lycée pour parler de Racine, au collège donc. Et j'ai eu une écoute, je suis arrivée, on venait de faire, puisque c'était près de Carcassonne où il y avait eu l'attentat, c'était une semaine après. Et quand j'ai commencé à leur parler d'Andromaque et de... Ils étaient, mais bouleversés. C'est-à-dire que le rapport, je m'en foutisme qu'on avait avant de, on pensait que tout était. Et donc, la tragédie, moi, ce que j'ai pensé petite, je sais pas pourquoi, nous, on s'est rencontrés, on a parlé de Barreau, peut-être à cause de Barreau, à cause d'Alain Cunic. Pour moi, c'est le théâtre qui m'intéresse. Et je sens que, malheureusement, on ne le transmet plus dans les cours, qu'on ne sait plus le jouer, qu'on le murmure, que on ne sait pas. Alors que c'est comme du rock and roll, c'est quelque chose qui est vital, qui engage tout le corps, qui est d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand une bombe va nous éclater sous les pieds, on va pas murmurer des choses. Et Racine a cette urgence. Alors pourquoi est-ce qu'il a cette urgence et tous les jours là sur Andromaque? Je pense parce qu'on ne connaît pas assez Racine. Racine est un enfant, c'est un orphelin. Et Andromaque, c'est l'histoire d'un enfant qui va être tué. C'est l'histoire d'une urgence. Et tout le théâtre de Racine est comment sauver l'humanité? Comment sauver l'humanité?
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Je vous propose d'écouter, Anne Delbé, la parole de Nathalie Azoulay, qui est écrivain et qui a sorti ce livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès aux éditions POL, Prix Médicis d'ailleurs 2015, Titus n'aimait pas Bérénice. Elle parle justement de la langue racinienne.
Racine travaille dans un corset. Il travaille avec la convention, il travaille avec le code, avec la rhétorique attendue, avec tout ce qui constitue... je dirais la base et les ingrédients de la tragédie classique du XVIIe. Mais à l'intérieur de ce code, en fait, il malmène les règles. Et c'est vrai que régulièrement, une fois qu'il a été un peu connu, pas au tout début, mais une fois qu'il a été un peu connu à partir d'Andromaque, on lui fait des reproches incessants. On lui dit qu'il met trop d'amour. On lui dit que ses hommes sont trop galants, qu'ils ne s'occupent pas assez de leur pouvoir et trop de leur passion amoureuse. On lui dit que Oreste dans Andromaque est complètement fou, que Hermione est une insensée et que Bérénice est un summum de galanterie et on dit même que c'est une rhapsodie galante. Et à l'inverse d'un Corneille qui lui tient le code d'une manière beaucoup plus équilibrée entre l'honneur, le pouvoir et l'amour, Racine y va du désir, de la passion amoureuse dans tout ce qu'elle a de plus excessif. Et il est vrai que régulièrement, donc, il essuie des griefs, des reproches, et il en a régulièrement assez. Et on dit aussi qu'en 1677, quand il cesse le théâtre avec Phèdre, c'est une façon de jeter l'éponge. Il en a assez de toutes ces querelles, alors Phèdre suscitant la plus grande de toutes, mais de toutes ces querelles auxquelles il a droit à chaque fois qu'il écrit une pièce. Donc c'est vrai que Racine, c'est ce drôle de mélange entre le code, la convention et la liberté. Et quand on est enfant, quand on est étudiant, lycéen, on a tendance à ne pas s'en rendre compte. On ne voit que le code, on ne voit que la pompe, on ne voit que les 12 syllabes de l'alexandrin qui rythment tout ça, et on n'entend pas la liberté, la syntaxe malmenée, les bizarreries de la grammaire et l'infinie simplicité de cette poésie qui surgit, je dirais, entre les règles.
Alors, est-ce qu'il y a un malentendu autour de Racine, Anne Delbé, si on écoute Nathalie Azoulay? Il semble que oui.
Oui, c'est intéressant ce qu'elle dit. Mais comme je vous le disais, la langue de Corneille est une langue de fin du XVIe. Très compliquée, je m'en étais rendu compte quand ma fille qui avait 10 ans, qui parlait Racine, ne comprenait rien du tout à impatient désir d'une illustre vengeance dont la mort de mon père, qui était tout à fait une autre écriture. D'abord, on ne peut pas comprendre le... Enfin, c'est idiot ce que je dis, tout le monde peut comprendre Racine. Au contraire, on aimerait, c'est d'une telle simplicité, jamais Seigneur, jamais je voulais être aimé. On aurait tous pu écrire ça et pourtant on ne l'a pas écrit. Mais je veux dire qu'il y a cet enfant qui aurait pu devenir un va-nu-pied, qui est né dans ce petit village à Ferté-Milon, où son père meurt, sa mère meurt. Et on ne s'est pas assez interrogé, heureusement, de cette grand-mère qui va l'amener à Port-Royal, qui a été créée grâce à Saint-Cyran pour les orphelins et pour les enfants des nobles, et que Racine, entre 12 ans et 18 ans, avoir une éducation extraordinaire où, contrairement à Molière, il va apprendre le grec, et c'est pour ça qu'on a Andromaque, puisque c'est d'après les vers d'Homère qui va inventer Andromaque, et d'après les quelques vers où Homère raconte comment Andromaque pleure avec son fils et tend son fils au père, ce qui est très très important dans la vie de Racine, parce que Racine va toujours être un enfant qui n'a pas assez d'amour. C'est-à-dire, plus on aime Racine, moins il se sent aimé dans tous ses vers. C'est-à-dire, on ne l'aime jamais assez. C'est terrible. Et parallèlement à ça, quand il va surgir dans le théâtre, et là, Nathalie Azoulay a raison, moi, je dirais beaucoup plus loin, il va faire surgir non pas Corneille, l'honneur, mais la sexualité. Et même pas la passion amoureuse. Moi, je parle de Racine comme Gainsbourg par moment. C'est une sexualité et un inconscient freudien qui est quelque chose de... D'où d'ailleurs, dès qu'on joue Racine, on fait des lapsus absolument insensés. C'est une langue qui a effectivement un mystère freudien, si je pourrais, je sais pas comment le qualifier. Par exemple, ce vers de Pyrrhus brûlé de plus de feu que je n'en allumais, où il compare la guerre à l'amour et l'incendie de la guerre qu'il a quand même torturé, etc. C'est quelque chose qui, au siècle de la bienséance, et on oublie que c'est quand même la première pièce, parce qu'avant il a écrit la Thébaïde, mais sous l'égide de Molière et Alexandre, et c'est vraiment avec Andromaque qui surgit. Il a 26 ans, 27 ans quand il écrit Andromaque, il quitte Molière parce qu'il tombe amoureux de la Duparc qui a suscité toutes les plus grandes passions, que ce soit La Fontaine, Molière, Corneille. Or, ce jeune homme de 26 ans va enlever la Duparc, si on peut dire, qui a 32 ans, qui a déjà 3 enfants. Et pour elle, il va écrire cet Andromaque. Parallèlement, Molière va écrire Le Misanthrope, La Veuve.
Que vous mettez également en scène, d'ailleurs, dans le cadre du Molière.
C'est pour ça que je les ai mis en parallèle. Et ce jeune Racine va susciter par son insolence et aussi quelque chose qui n'a pas été assez traité dans le travail, on ne sait pas pourquoi, dès l'âge de 20 ans, le roi qui n'a qu'un an de plus, c'est ça dont on ne se rend pas compte, Louis XIV a 21 ans quand Racine a 20 ans et qu'il va à la cour, mais il y a immédiatement une reconnaissance entre les deux comme deux frères. On dit qu'ils se ressemblent comme deux frères. Il y a une énigme racinienne sur Louis XIV. Il n'est pas du tout traité comme Molière, qui est traité comme un baladin, comme un saltimbanque. Racine va toujours être auprès du roi.
Il sera d'ailleurs historiographe du roi. Hein.
Absolument. Mmh. Et pas parce qu'il arrête le théâtre. Mmh. Alors, pourquoi est-ce que il est entré dans le silence par moments? Et ces dernières années, moi je vois avec les comédiens, c'est très difficile de faire comprendre aux jeunes acteurs ce que c'est la gloire du XVIIe siècle, la gloire racinienne. Eux, ils voient un peu Cannes, Hollywood, etc. C'est la gloire intérieure, la façon de ne pas être du commun. Alors évidemment, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire, oui, je peux me permettre de coucher avec Hippolyte, ce n'est pas mon fils, mais comme disait Lacan, ce serait une faute de goût. Et il y a à la fois chez Racine cette sexualité et en même temps cette brûlure intérieure. Et je crois qu'on a ça parce que ce jeune garçon, on lui a dit que la plus grande chose c'était les poètes, Sophocle, Euripide, mais qu'il ne fallait jamais toucher à ça parce que le théâtre, à cause du jansénisme, on était damné. Mmh. Et donc on a dans ce théâtre une folie. Et Nathalie Azoulay a raison de dire, l'arrivée d'Oreste au XVIIe siècle, c'est... Enfin, fou.
C'est le fou. Voilà. Le fou échappé d'Homère, effectivement.
Le fou échappé d'Homère, oui.
Et Dieu sait que chez Homère, la guerre de Troie,
c'est effrayant.
C'est effrayant. D'ailleurs, pourquoi est-ce que, d'après vous, on fait un petit détour par Iphigénie? Pourquoi Racine sauve-t-il Iphigénie quand il écrit Iphigénie?
Alors,
qu'Iphigénie, elle est sacrifiée par Agamemnon
dans... Tout à fait. Je vais vous répondre d'abord sur Troie et sur la tragédie aujourd'hui. Moi, j'étais jury, là, au studio d'Asnières. J'étais pour eux, que les élèves entrent, qui est vraiment une des meilleures écoles actuellement. Et j'étais étonnée pour des gens qui passent Racine, par exemple Hermione, et qui vous disent, qui vous jouent comme ça, de votre propre main, Polyxène égorgée, etc.
Hermione, c'est celle qu'on entendait en tout début d'émission. Hein,
c'est-à-dire
qu'on entendait en ouverture d'émission.
Le récit d'Andromaque, dois-je les oublier, c'est un immense récit sur le massacre de Troie, et presque inaudible. C'est les camps de concentration. C'est quelque chose. Songe au cri des vainqueurs, songe au cri des mourants dans la flamme étouffée sous le fer expirant. C'est effrayant. Et quand Hermione, à la fin, ose dire à Pyrrhus, mais on a tout à attendre de vous, de votre propre main, Polyxène égorgée. Et les jeunes actrices vous disent, de votre propre main, Polyxène égorgée. Et c'est là où je veux transmettre la tragédie, parce que on ne peut pas jouer comme ça.
On ne peut pas oublier, en fait. On n'a pas le droit d'oublier, c'est ça que vous êtes en train de dire.
C'est la grande question que pose Racine, est-ce qu'on peut pardonner? Bon, et sur Iphigénie, là, c'est extrêmement secret. C'est qu'il écrit Iphigénie au moment où il perd sa fille de 8 ans, la fille qu'il a eue là du parc. Et je pense que... puisque Iphigénie, c'est aussi l'histoire d'Eriphile, de père inconnu. Il ne peut pas perdre un enfant. Puisque lui-même, toute son œuvre est comment sauver, non pas l'enfant, mais l'innocence des enfants. Et donc, il sauve Iphigénie. C'est une pièce déchirante, puisqu'il l'écrit juste au moment où il perd... Mais, vous savez, on devrait beaucoup plus parler de la vie de Racine, qui est une vie... de désespoir, de tragédie, de solitude, d'épouvante.
Je voudrais vous faire entendre, Anne Delbé, ce que disait d'Andromaque, puisque vous faites allusion justement à tout ce contexte de la guerre de Troie, effectivement épouvantable. Ce que disait d'Andromaque, le metteur en scène Jean-Paul Roussillon, c'était en 1974.
Il y a toujours paysan, Troie, il y a toujours paysan... la guerre, il n'y a pas longtemps que ça s'est terminé. Je veux dire que tous les personnages, vraiment, en parlent, que ce soit Pyrrhus, que ce soit tout le monde. On parle du carnage, on parle de cette ville splendide qui, maintenant, est complètement rasée. Il y a ça. Et il se passe des passions, au milieu de quatre personnages, et des personnages qui peuvent, si on se ramène à des choses de maintenant, qui peuvent appuyer sur le bouton, simplement pour une question de passion. Alors je crois qu'il y a de la part des spectateurs, nous nous l'essayons aussi de la part des suivants et des suivantes, de quelque chose qui, eux, si vous voulez, porterait un témoignage, si vous voulez, peut-être un peu plus tragédie, et de laisser ces personnages-là dans la passion. Un genre de, un peu de contrepoint. Bien sûr, ça n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec rien. Et puis, c'est une guerre qui peut revenir à tout moment, parce que dès le moment où Pyrrhus dit « moi, je garde Andromaque », bien sûr, il y a un ultimatum qui est donné par Oreste. C'est-à-dire que, juste au début de la pièce, ou presque, Oreste vient en tant qu'ambassadeur et vient prévenir Pyrrhus que s'il ne rend pas Astyanax, ça risque de prendre des proportions considérable, et on peut même dire presque que c'est un ultimatum. Ce climat de guerre, c'est pas Andromaque, mais enfin, il est tout de même écrit, et je pense qu'il faut le montrer.
Oui, vous êtes assez raccord, au fond, avec ce que disait Jean-Paul Roussillon en 74. Lui, il parlait évidemment pas des guerres actuelles. Vous faites directement allusion à ce qui se passe en Syrie, à Ndelbé. Mais effectivement, on a quand même le sentiment, enfin, je me dis en vous écoutant, que continuer à mettre en scène Racine, la tragédie, c'est au fond, on aurait une sorte de devoir de mémoire, en plus que d'être très vigilant sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est dire, attention, quand je disais n'oubliez pas ce qui se passe autour de vous. Ça sert à ça.
C'est pas anecdotique, quoi. C'est pas l'idée de dire, tiens, je pense à la Syrie,
bien
etc.
Sûr.
C'est que la question, comme ce vers magnifique, doit-on punir sans cesse et haït-on toujours? C'est la grande question de l'humanité. C'est-à-dire, que Racine pose, c'est, mais qu'est-ce qu'on a? Et dans ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette guerre générale des humains, je parle pas, voyez, pas d'une guerre spéciale. Racine dit, en plein milieu, il y a quand même quelque chose qui est absolument insensé et qui peut-être sauve tous l'humanité, c'est qu'Andromaque est foudroyé par l'amour de Pyrrhus dans un regard et inversement. C'est-à-dire moi, naturellement, pour moi, il n'est pas possible de monter Andromaque comme quelqu'un de prude et d'inatteignable. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit « j'ai eu le coup de foudre pour Pyrrhus alors qu'il était en train de tout massacrer, qu'il était couvert de sang et lui aussi. » Et chez Racine, c'est toujours ça, c'est-à-dire l'amour vient dans ce qu'il a de plus brutal et de plus... C'est une pièce absolument scandaleuse parce qu'elle pose précisément les questions « qu'est-ce que l'humanité ? Qu'est-ce que nous sommes ?» quoi. C'est quelque chose... Et Roussillon a raison de dire, oui, je dirais que c'est plus qu'un devoir de mémoire, c'est quelque chose qui peu à peu nous creuse au fond d'un mot que malheureusement nous n'osons plus employer, que j'emploie volontairement, nous avons une âme.
Mais oui, nous avons une âme et un peu plus d'âme grâce à vous, Anne Delbé. Merci beaucoup d'être passée nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle les dates de vos créations qui se déroulent donc dans le cadre du mois Molière, lequel se tient à Versailles du 1er juin au 1er juillet. Andromaque, ce sera les 1er, 8 et 22 juin aux Grandes Écuries de Versailles. Le Misanthrope de Molière, ce sera les 2 et 29 juin, également aux Grandes Écuries. Et dans les deux cas, je crois que l'entrée est libre. C'est à
absolument
noter.
Ça, il faut...
Et les deux spectacles partent ensuite, pendant l'été, au Festival de Figeac au mois de juillet.
Il faut le citer parce que le maire de Versailles aime le théâtre plus que tout.
C'est libre, c'est entrée libre, on le redit. Merci beaucoup, Anne Delbé. Vous pouvez même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre. Inès Duperron, Jacques Hubert, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous. Take all your pain and your heart and tear. And if you need me,
when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. Honey, the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well.